Chapitre 10. Quelques idées sur le bon ton. Le jour suivant fut destiné au bal du maître des cérémonies, qui était le rendez-vous général de toutes les coteries et de toutes les sociétés particulières. Mrs. Mitin, arrivant de bonne heure chez Camilla, trouva qu'elle n'avait pour ce jour-là que le même bonnet qu'elle portait ordinairement. Elle l'assura qu'il était tellement hors de mode qu'il n'y avait pas une dame ni une demoiselle dans Tunbridge qui voulût se le porter. En conséquence, elle proposa de lui façonner un turban qui ne lui coûterait presque rien et qui serait cependant la plus jolie, la plus simple et la plus charmante chose qu'on ait jamais vue. Camilla, quoique étrangère à la vanité et sans aucun penchant naturel pour l'extravagance, n'était ni d'un âge, ni d'une philosophie à braver le ridicule auquel pourrait l'exposer sa mise. Elle accepta donc avec reconnaissance l'offre de Mistress Mitin. Celle-ci, prenant une guinée, lui dit qu'elle paierait le chapeau à Mistress Hilden et qu'en même temps, elle achèterait un mouchoir pour le turban. Quand elle revint, néanmoins, elle n'avait dépensé que quelques shillings dans une autre boutique pour quelques articles qu'on lui avait donnés à si bon marché, que c'eût été une honte de ne pas les acheter. Quant aux mémoires de Mistress Hilden, elle ne l'avait pas payé parce que la marchande ne voulait pas d'argent avant le départ de la jeune lady. Le turban ayant été fait sur un modèle préparé pour Mistress Burlington, Camilla avait tout lieu d'être satisfaite de son élégance. Mistress Mitin ne chercha pas longtemps comment elle pourrait se faire payer de ses peines. Le chapeau qu'elle n'avait pas trouvé convenable pour Camilla, elle dit qu'elle imaginait un moyen de l'arranger pour elle-même et qu'une amie, lui ayant donné un billet pour le bal, elle mettrait ce même chapeau, n'en ayant pas d'autre pour l'instant. Edgar et Camilla, en se revoyant le soir, éprouvèrent des sensations bien différentes de celles que leur avait dernièrement occasionné leur rencontre dans le même appartement. Edgar la croyait devenue coquette et Camilla ne voyait, dans son projet de voyage, qu'un moyen de rompre avec elle. Elle fut reçue en général avec une attention particulière. Sir Sedley Clarendel s'approcha d'elle et lui sourit avec civilité. Lord Newford et Sir Théophile Gérard, quoiqu'ils passassent devant Mistress Albury sans lui adresser la parole, rendirent leurs devoirs à Camilla. La distinction dont l'avait honorée Mistress Burlington faisait qu'on pouvait la traiter avec civilité sans déroger, et même la regarder comme une personne susceptible désormais d'être admise dans certains cercles. Quoique Mistress Albury eût tout ce qu'il fallait pour être une femme à la mode, on concevait qu'il lui manquait quelque chose pour être ce qu'on appelait du bon ton, puisqu'elle ne présidait aucun parti et qu'elle n'était remarquée ni par Lady Alicia Thelmore, ni par Mistress Burlington. Le bon ton, aux yeux des connaisseurs, est autant au-dessus de la mode que la mode est au-dessus de la fortune. Car, quoique cette dernière soit désirée par tout le monde, on la courtise sans la respecter, on la recherche sans l'honorer, à l'exception de ceux qui, dès la plus tendre enfance, en ont fait leur occupation privilégiée. Le bon ton peut s'acquérir sans naissance et sans esprit, car dans certains cercles, il tient lieu de l'un et de l'autre. Définir ce qu'il est serait une chose aussi difficile à ses plus célèbres adorateurs qu'à ceux qui sont les moins initiés dans ces mystères. Que ceux qui s'appellent eux-mêmes gens du bon ton dirigent et rabaissent les autres, c'est une chose trop évidente pour qu'on en puisse douter. Mais comment et par quel art parviennent-ils eux-mêmes à cette prééminence? C'est ce qu'ils ne sauraient expliquer. Un tic ou une grimace a le bonheur de trouver des imitateurs, une locution bizarre est adoptée, un costume étrange se popularise. Quelque beauté ou quelque défaut marqué, voilà l'origine la plus ordinaire du bon ton. Mais, quoi qu'on puisse rapporter son principe à ses causes accidentelles, son établissement et sa gloire reposent sur la vanité qui se hausse et se surfait, pour ainsi dire, ou sur l'insolence qui ne sait rougir de rien. Malgré toute sa supériorité, Mistress Albury se sentit piquée de la conduite des gens du bon ton, et, quoiqu'elle s'admirât elle-même de faire attention à une chose qui le méritait si peu, elle dit « Ceux qui méprisent les autres, quoi qu'ils soient eux-mêmes les êtres les plus méprisables, n'en tiennent pas moins toujours le haut bout. Mais, à l'égard de ces animaux du bon ton, ils priment uniquement parce que personne ne les combat. Leur présomption est si notoire que, soit crainte, soit dégoût, nul ne s'avise de la réprimer. Que quelqu'un se hasarde courageusement à être plus impertinent qu'eux, vous les verrez tous confondus et humiliés. On peut les comparer à ces chiens qui aboient contre tout le monde et qui fuient dès qu'on leur montre le bâton. Quel bien ne feriez-vous pas, dit le général, si vous pouviez entreprendre de les morigéner. Oh, ciel, général, pourriez-vous me soupçonner d'une pareille folie? Croyez que je n'ai nulle envie de leur faire du bien. Si la nature leur a refusé le sentiment des convenances, pourquoi serais-je plus libéral à leur égard? Je ne désire que leur châtiment, et peut-être, hélas, moins par vertu que par dépit. La conversation fut bientôt engagée entre Camilla et deux hommes du bon ton. C'était un composé de quelques mots sentencieux prononcés emphatiquement à la louange de Spa et au mépris de Tunbridge. Ces mots revenaient à tout moment et dans toutes sortes de discours, avec une telle précision et une exclusion si formelle des autres que tout le vocabulaire de ces messieurs consistait à peine en une quarantaine de mots. Edgar prit leur place au moment où ils quittèrent Camilla. Mais il n'y resta pas longtemps seul. Mrs. Mitin fut aussi diligente que lui. Elle brûlait d'impatience d'apprendre à Camilla que tout le monde admirait son turban. « Comme il lui sait bien, disent les uns. Ma foi, nous ne l'aurions pas reconnu, disent les autres. Et tous conviennent que sa tête n'a jamais été mieux parée. » Lorsqu'Edgar put prendre la parole, il commença par dire un mot de Sir Sedley Clarendel, qu'il supposait l'instigateur de toutes ses impertinences. La délicatesse qui l'empêchait d'exprimer son opinion sur le major ne fut ici d'aucune considération. Et la jalousie n'entra pour rien dans l'éloignement qu'il témoignait pour Clarendel. Il prétendit que le jeune baronnet était incapable d'aimer autre chose que lui-même et qu'il était décidément fait pour vivre garçon. Il avoua sans détour qu'il n'avait jamais connu d'être plus fou ni de fat mieux conditionné. « Vous pourriez vous tromper, » dit Camilla. « Vous ne le jugez que d'après l'impression que fait généralement son extérieur, et elle est absolument contre lui. J'ai toujours cherché à lui trouver de meilleures qualités, et j'ai eu le bonheur d'y réussir. Sa présence me fait plaisir toutes les fois que je songe que je lui dois la vie. » Edgar, étonné, demanda une explication. Et aussitôt qu'elle lui eut été donnée, il ne put contenir les transports de sa reconnaissance. Il se frappa les mains en disant « C'est un coup de la Providence. Je le verrai désormais d'un œil bien différent. » Alors, se tournant presque involontairement vers Mistress Alberi, il désira d'être présenté aux jeunes baronnettes. Sir Sedley reçut ses ouvertures avec quelques surprises, mais avec beaucoup d'honnêteté, et continua de raconter à Lord Newfort et à Sir Théophile la grotesque querelle de Mac Dercey avec M. Dubster. « Comme te voilà changé, Clary !» dit Sir Théophile. « Tu étais, il y a quelque temps, dévoré de vapeur, et maintenant, tu babilles comme un perroquet. »« C'est vrai, » dit Clarendel, « je commençais à périr d'ennui. C'est un mal si commun que mon domestique a été attaqué la semaine dernière. »« C'est un mal si commun que mon domestique en a été attaqué la semaine dernière. »« Malédiction, » dit Lord Newfort, « ton domestique... »« Oui, le drôle n'est pourtant jamais sans quelque affaire. » Je ne sais s'il aurait voulu me copier. Au reste, que faire dans ce bas monde sans une petite dose d'ennui? On bâille, on tend les bras, et pendant ce temps-là, les heures s'écoulent. Tu as raison, dit le lord. Je ne voudrais pas, pour l'empire du Mogol, être condamné à passer une demi-heure sans bâiller et sans étendre les bras. Quant à moi, dit Sir Sedley, je ne suis jamais sans quelque expédient. J'ai toujours pour ressource quelque velléité de devenir amoureux, et ses pensées m'occupent. » En parlant ainsi, il regarda Edgar, qui, ne s'apercevant pas qu'il avait voulu attirer son attention, dit naturellement « Des pensées, pouvez-vous les rappeler ou les quitter à volonté ?»« Bien certainement, après 24 ans, un homme est rarement pris par surprise, du moins jusqu'à 40. Car alors, la crainte d'être surannée peut quelquefois ramener les tourderies de l'adolescence. » Mais, en général, ce n'est que dans l'extrême jeunesse qu'on se laisse enchaîner. Edgar lui demanda en riant comment il s'y prenait pour se donner un amour de commande. Rien n'est si facile, répondit le baronnet. On regarde attentivement quelque femme charmante, on la suit des yeux quand on quitte l'appartement, on les tient fixées vers la porte jusqu'à son retour, remplissant cet intervalle par quelques soupirs auxquels, en peu de temps, on est si habitué qu'ils deviennent naturels. Alors, avant que vous vous en soyez aperçu, il s'élève en vous une certaine sollicitude, une inquiétude particulière que les connaisseurs en sentiment appellent amour. C'est un excellent avis à donner, dit Edgar, à ces hommes incertains qui voudraient se persuader à eux-mêmes la nécessité de se marier. Oh non, mon cher monsieur, non, c'est une erreur très grande de croire qu'un homme aime quand il se marie. Il peut avoir aimé auparavant. J'ai même entendu dire que quelquefois il aimait après. Mais dans le moment, jamais. Il y a dans les formalités et dans les préparatifs du mariage, je ne sais quoi qui chasse les amours. Il est rare qu'ils assistent même à la demande que l'on fait à la famille, à moins qu'on ne doute d'obtenir le consentement. Mais les accords, le contrat, le notaire, non, il n'est pas un seul petit amour dans l'île de Cypris qui ne s'enfuit à tire-d'aile quand on parle de ces rebutantes formalités. Sœur Théophile dit en bâillant, « Pauvre Clary, tu déraisonnes !»« Oh mort, oh malédiction !» dit Lord Newford. Qui peut parler de mariage ? Il est donc très indifférent, reprit Edgar, quelle est la femme qu'on épouse. Peu importe qu'on l'ait choisie ou qu'on rougisse de l'avouer. Rougir de l'avouer ? Répéta Sir Sedley en souriant. Non, non, un homme qui a quelque usage ne rougit jamais de sa femme, quelle qu'elle soit. D'une maîtresse à la bonne heure, car si elle a quelques défauts, on peut s'en prendre au goût de son amant. Rougir d'une femme, dit Lord Newford. Oh, parbleu, c'est trop détestable. Oui, en vérité, dit Sir Théophile, je ne pourrai jamais me soumettre à rougir d'une femme. Il est donc très égal, dit Edgar, qu'elle se conduise mal ou bien. Vous l'avez dit, si vous l'épousez pour sa beauté, sa figure est votre excuse. Si c'est pour de l'argent, vous n'avez pas besoin d'être justifié. À la vérité, si par quelque chance extraordinaire on se marie avec l'intention de vivre avec celle qu'on épouse, il est possible alors qu'on désire qu'elle soit estimée. Estimée ? Ha ha ! Dit Lord Newford. Une femme estimée ? Oh, que c'est mauvais, Clary ! Oh, que c'est mauvais ! L'arrivée de la divine Mistress Burlington et de sa suite interrompit cette conversation. Le jeune baronnet alla tout de suite la joindre. Mais, en s'en allant, il serra la main à Edgar, comme pour lui dire qu'il désirait de cultiver sa connaissance. Edgar, revenant à Camilla, lui avoua qu'il s'était trop hâté de juger Sir Sedley en le regardant comme un fou et un fat. « Car, ajouta-t-il avec un sourire, je vois qu'il n'y a qu'une de ces épithètes qui lui conviennent. Il ne manque pas d'un certain mérite, quoiqu'il abuse étrangement des dons de la nature par une affectation ridicule. » Camilla se proposait d'éclaircir l'histoire de l'Allemande lorsque Mistress Burlington, s'approchant et lui prenant la main avec sa grâce ordinaire, voulut l'entraîner dans sa société. N'ayant nulle envie de danser, puisqu'Edgar ne l'avait pas priée et qu'elle avait refusé le major, elle ne put résister à l'invitation. Elle ne craignait point de déplaire à Mistress Albery en la quittant, car elle s'apercevait que cette dame n'était pas fâchée qu'elle s'éloignât d'elle. Edgar, curieux d'entendre et d'apprécier cette nouvelle connaissance, se rapprocha du lieu où elle était avec une attention particulière. Mais, quoiqu'il ne pût voir ni entendre Mistress Burlington sans l'admirer, cette admiration n'était point exempte de censure pour celle qui en était l'objet, ni d'inquiétude pour Camilla. Edgar vit facilement que cette femme avait plus de beauté que de prudence, plus de grâce que de dignité. Les femmes dans son groupe étaient peu nombreuses et peu dignes d'être remarquées. Les hommes paraissaient presque tous ses amants, et si nul d'entre eux ne semblait privilégié, il ne paraissait pas non plus qu'aucun fût dédaigné. Elle ne montrait, en recevant tant d'hommages, ni la réserve qui convient à la modestie, ni la dignité qui appartient à l'estime de soi-même. Camilla ne quitta cette enchanteresse qu'au moment où elle fut rappelée par Mistress Albery. Car cette dame, se voyant encore sans aucun parti marquant, grâce à l'arrivée de Lady Alicia Selmore, qui entraîna tout ce qui ne s'était pas déjà réuni à Mistress Burlington, se trouva mortellement ennuyée du bal et voulut absolument revenir à la maison. Camilla, en se retirant, présenta à Sœur Sedley l'argent qu'elle lui avait emprunté, plié dans un papier. Sœur Sedley le reçut sans opposition, quoique avec répugnance, d'après ce qu'il avait appris de Mistress Albery. Edgar attendait le moment où Camilla quitterait le groupe. Mais Mistress Mithin l'attendait aussi. Elle saisit un de ses bras avant qu'il pût la joindre. Et comme il allait se placer de l'autre côté, Miss Denel s'en empara. « Il faut, mes chers amis, dit Mistress Mithin, que je vous apprenne un secret. Vous ne savez pas pourquoi je me qualifie de Mistress, quoique je ne sois pas mariée ?»« Oh, ma chère, dit Miss Denel, vous n'êtes pas mariée et vous êtes si vieille. » « Si vieille, miss, qui vous a dit que j'étais vieille? Je ne suis pas si vieille que vous pourriez le penser. Mon âge n'est pas fait pour être remarqué, je vous l'assure. D'où peut vous venir une pareille idée? Je veux dire seulement que vous ne paraissez pas très jeune. Je ne vous conçois pas, miss Denel. Peut-être que vous-même ne paraîtrez-vous pas jeune quelqu'un de ces jours. On n'a pas toujours le même visage. Au reste, savez-vous pourquoi je me fais appeler mistress? Ce n'est certainement pas à cause de mon âge, mais parce que je voudrais qu'on me prie pour une jeune veuve. Car on aime une jeune veuve. Et si l'on se fait appeler miss, on pense tout de suite que vous êtes une vieille fille, ce qui est désagréable. » Cet entretien dura jusqu'à ce qu'on montât en voiture.